الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette lecture du Coran de Surat Sad que nous avons débuté hier avec son explication en langue française. Alors nous sommes arrêtés hier au verset 20 de cette sourate.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
Donc nous avons lu du verset 20 au verset 40 de sourate Sad. Allah subhanahu wa ta'ala dit à partir du verset 21 dans le sens: le récit des plaideurs qui escaladèrent le mur de l'oratoire t'est-il parvenu? Lorsqu'ils s'introduisirent chez Daoud, chez David, il en éprouva de la peur, mais ils dirent: n'aie crainte, nous sommes deux plaideurs et l'un de nous a abusé de l'autre. Juge donc entre nous en toute justice et sans partialité et guide-nous vers la voie droite. L'un d'eux dit: voici mon frère qui possède 99 brebis, tandis que je n'en ai qu'une. Il m'a dit: confie-la moi, et il a eu le dessus sur moi dans la discussion. David, alayhi salatu wassalam, dit: par Allah, il a été injuste envers toi en te demandant ta brebis pour l'ajouter aux siennes. Nombre d'associés se font du tort entre eux, à l'exception de ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, mais ils sont bien rares. Daoud réalisa que nous l'avions mise à l'épreuve. Il demanda alors pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. Nous lui avons pardonné cela dans l'au-delà. Il sera proche de nous et jouira d'un excellent lieu de retour. Ô Daoud, nous t'avons fait succéder aux prophètes sur terre. Juge donc entre les hommes en toute équité et ne suis pas tes passions, sinon elles t'égareront du sentier d'Allah. Ceux qui s'égarent du sentier d'Allah subiront un dur châtiment pour avoir oublié le jour du jugement. Après qu'Allah tabarak wa ta'ala ait cité les bienfaits qu'il a donnés au prophète Daoud alayhi salatu wassalam, nous avons vu cela dans l'explication et dans la récitation d'hier. Et parmi les bienfaits qu'il lui a accordés, il y a le fait, l'art d'arbitrer les litiges entre les gens, au point de devenir célèbre pour cela. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne le récit des deux plaideurs qui avaient un différend entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala avait fait en sorte qu'il soit une épreuve pour Daoud et un moyen de se ressaisir après avoir fait un faux pas. Allah lui pardonna subhanahu wa ta'ala et accepta son repentir et lui soumit cette question, c'est-à-dire cette affaire, cette épreuve. Et Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs, cette histoire étonnante, qui escaladèrent le prétoire, le lieu où Daoud alayhi salatu wassalam s'adonnait à la dévotion, sans lui demander sa permission ni attendre son autorisation? Ils ne sont pas entrés chez lui par la porte. C'est pour cela que lorsqu'il les a vus, il prit peur. Et ils lui ont dit directement: ne prends pas peur, ne crains rien, nous sommes deux plaideurs, l'un de nous a agi inéquitablement avec l'autre. Il a fait preuve d'injustice envers l'autre. Départage-nous en toute justice et équité, sans pencher pour l'un ou pour l'autre, et sans partialité, et guide-nous vers le droit chemin. Le droit chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah, le chemin de la justice. Juge entre nous selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme justice et droit. Le prophète Daoud alayhi salatu wassalam ne s'est pas vexé de leur exhortation et ne les a pas blâmés pour cela. L'un d'entre eux a dit: cet homme est mon frère. Il a insisté sur la fraternité, cette fraternité qu'elle soit dans la religion ou dans la parenté ou l'amitié, parce que cela implique d'être juste, et le rejet de l'injustice encore plus quand la personne est proche. et que l'injustice envers le frère est encore plus grave qu'une autre injustice envers une personne étrangère. Il a dit, cet homme est mon frère, il possède 99 brebis. Donc les exégètes ont divergé. Que veut dire 99 brebis? Est-ce que c'est des vraies brebis? Et les savants du tafsir, de l'exégèse du Coran, ont dit que cela veut dire les épouses, car c'est une kinaya, c'est une façon d'appeler les épouses. Donc, l'un d'entre eux avait 99 épouses, ce qui est une grande faveur, qui implique pour lui la suffisance et le contentement pour ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé et donné. Et moi, je n'en ai qu'une. Et il veut me la prendre. Et il m'a demandé de la lui céder, afin qu'elle soit pour lui. Et j'ai dû m'incliner devant son insistance. C'est-à-dire qu'il est arrivé à me convaincre, ou presque, en insistant là-dessus. Après avoir écouté ses propos, Daoud alayhi salat wa salam prit la parole. Il y a lieu de signaler que normalement un juge doit écouter les deux parties et ne doit pas juger entre deux personnes avant d'écouter les deux parties. Il est interdit à un juge de juger sans écouter les deux parties et de réunir tous les éléments. D'ailleurs, c'est ce que je répète incessamment et constamment à toute personne qui nous envoie des questions sur les conflits. Oui, mon mari ci, oui, ma femme ça, oui. On ne juge pas les conflits, car pour juger les conflits, il faut qu'une personne vous accueille, une personne déjà qui a la science de connaître les détails sur ce domaine, qui va accueillir tous les belligérants, les plaideurs, les témoins s'il y en a besoin, les preuves, et il va faire une longue assise où il va devoir écouter chacun, revoir en détail depuis le début de l'histoire qu'est-ce qui s'est exactement passé, pour à la fin donner un jugement. Donc ce que font beaucoup de nos sœurs et de nos frères à essayer d'appeler à l'étranger ou contacter des personnes de science, oui, on m'a fait ci, ça, quel est le jugement? C'est inutile. Même s'ils arrivent à obtenir une réponse, en réalité, ce n'est pas de cette manière qu'on règle les conflits. Il faut absolument que chacun donne le détail de ses preuves. Puis le juge pourra juger en toute conscience et en toute connaissance de cause. Barakallahu fikum. Donc, là on pourrait dire, Daoud alayhi salatu wassalam a jugé sans écouter la deuxième partie. Effectivement, pourquoi? Parce que la deuxième partie était présente et il a agréé ce que la première partie a dit. C'est-à-dire, il n'a pas relevé. Il n'a pas dit, je ne suis pas d'accord, cela ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire, il lui a donné l'occasion à la deuxième partie de s'exprimer. Sauf que la deuxième partie n'a pas désiré s'exprimer, car elle considérait que ce qu'a dit la première partie était juste et était suffisant pour que Daoud alayhi salat wa salam puisse donner son jugement. Donc, il a donné son jugement en disant: ton frère a effectivement commis une injustice en te demandant ton épouse pour l'ajouter à son groupe d'épouses. Et c'est là l'habitude chez la plupart des associés et des partenaires. Il lui a ajouté un grand nombre d'associés. N'hésite pas à se léser les uns les autres, car l'injustice est une caractéristique propre à l'être humain. À l'exception de ceux qui croient en Allah et font de bonnes œuvres, ce qu'ils ont avec eux comme foi et bonnes œuvres les empêche de léser les gens de leurs droits. Mais hélas, ces derniers sont fort peu nombreux. Comme a dit Allah tabaraka ta'ala dans un autre verset, dans le sens: et rares sont mes serviteurs qui sont reconnaissants. Wa qalilum min ibadiy ash-shakur. Et Daoud alayhi salat wa salam a su, après avoir jugé entre eux, que nous le mettions à l'épreuve dans cet exemple, c'est-à-dire que nous le mettons en examen et que nous le soumettons à cette épreuve afin qu'il se ressaisisse. Daoud alayhi salat wa salam implora alors le pardon de son Seigneur pour ce qu'il avait fait comme erreur et se prosterna en se repentant, en revenant à Allah tabaraka ta'ala par le repentir et la dévotion. Nous lui avons alors pardonné la faute qu'il avait commise et nous lui réservons auprès de nous une place de choix. C'est-à-dire Allah tabaraka ta'ala l'a honoré par diverses faveurs en disant qu'il lui a préparé auprès de lui une place de choix, un degré très élevé et une proximité d'Allah tabaraka ta'ala. Et nous lui accordons un beau lieu de retour, c'est-à-dire une faculté de revenir à nous. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de cette erreur qu'a fait Daoud alayhi salat wa salam, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour nous à le connaître. Aussi, chercher à le connaître, c'est s'astreindre à une chose impossible à concrétiser. L'intérêt dans cela réside dans ce qu'Allah nous a raconté de sa compassion envers son serviteur, de même que du repentir de ce dernier et de son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après son repentir, son degré s'est élevé et il est devenu meilleur qu'avant. Ô Daoud, ô David, nous faisons de toi un successeur sur terre pour gérer les affaires religieuses et les affaires profanes des gens. Juge entre les hommes en toute équité, c'est-à-dire avec la loi d'Allah, avec ce qu'Allah a révélé, avec justice, car la justice est ce qu'Allah a révélé. Certes, ceci n'est possible que si l'on possède la connaissance de ce qui est obligatoire, la connaissance du contexte dans lequel on vit et la capacité d'agir pour le droit. Effectivement, parfois, des personnes nous relèvent certains conflits ou certaines injustices qu'ils ont subies et ils vivent en terre de kufr. Et la loi des kuffars a été jugée contre eux. Et ils nous demandent quel est le statut de l'islam sur ça. À quoi ça sert? Je n'ai pas le pouvoir de faire appliquer ce jugement. C'est-à-dire, si je dis oui, leur jugement est faux. La personne, il va aller faire quoi? Il va pouvoir aller récupérer, par exemple, la garde de ses enfants? Ou bien, il va pouvoir aller récupérer le droit qu'on lui a enlevé? Non. Donc, ça, c'est un des méfaits de vivre sous la croupe des koufars et sous leurs lois. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit à Daoud alayhi salatu wa salam de juger par la loi d'Allah en toute équité, avec science, avec connaissance. Et garde-toi de suivre tes penchants et tes passions en étant partial avec quelqu'un en vertu d'un lien de parenté, d'une amitié, d'un amour ou d'une haine. Et ceci est la qualité de la personne qui juge avec impartialité. C'est-à-dire qu'il est juste envers son ami comme envers son ennemi. Et que s'il a jugé une affaire, il ne regarde pas les liens qui le lient aux personnes qui sont face à lui. Et que sa haine envers un peuple ne le pousse pas à être injuste. Mais il essaye de rester toujours juste dans son jugement. Et Allah tabaraka ta'ala donc l'a mis en garde de suivre ses penchants si tu veux rester dans la voie du Seigneur et ne pas suivre les passions qui te feront sortir de la voie droite. Car ceux qui dévient de la voie du Seigneur, surtout ceux qui le font sciemment, subiront de terribles châtiments pour avoir oublié le jour du jugement. S'ils se rappellent ce jour-là et que la crainte d'Allah imprègnent leur cœur, ils ne pencheront nullement avec les passions séductrices. Puis dans le verset 27, Allah tabaraka ta'ala a dit dans le sens: nous n'avons pas créé en vain les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Cette opinion est celle des mécréants. Malheur aux mécréants pour l'enfer qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, comme ceux qui sèment la corruption sur terre? Traiterons-nous les pieux comme les dépravés? Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Allah tabarak wa ta'ala nous parle ici de la perfection de sa sagesse dans la création des cieux et de la terre. Il ne les a pas créés en vain, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pas par vanité et absurdité sans utilité ni intérêt, comme le pensent les mécréants et les infidèles, qui ont pensé des choses qui ne conviennent pas à la majesté d'Allah, tabarak wa ta'ala. Car ces gens-là sont voués à l'enfer, le seul lieu qui leur convienne et où ils subiront leur châtiment. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre avec la vérité et pour la vérité. Il les a créés pour que les hommes sachent la perfection de sa science et de sa puissance, ainsi que l'immensité de son pouvoir, et pour qu'ils sachent qu'il est le seul à mériter l'adoration, en dehors de ceux qui ne sont pas capables de créer le poids d'un atome, dans les cieux ou sur terre, et qu'ils sachent que la résurrection est une réalité, le jour où Allah tranchera entre les gens de bien et ceux du mal. Que l'ignorant de sa sagesse ne pense pas qu'Allah va les mettre sur le même pied d'égalité, le pieux et le pervers, ceux qui croient et font le bien et ceux qui sèment le mal sur terre. Non, ils ne seront pas sur un même pied d'égalité auprès d'Allah. Ceci est incompatible avec la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et son jugement. Puis il a parlé du Coran, ce livre béni que nous t'avons révélé, c'est-à-dire qui contient un grand bien, une science immense. Il sert de guidance contre l'égarement, de remède contre le mal et de lumière dans les ténèbres. Il contient tout jugement juste dont ont besoin les hommes responsables, et toutes les preuves formelles pour étayer toutes les demandes. Tout cela fait de lui le plus majestueux des livres, qui ne cesse d'ébahir le monde depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Afin que les hommes de bon sens en méditent les versets. Et ceci est le but de la révélation. Un des buts de la révélation est que les hommes méditent les versets en extrayant leur science et leur connaissance et en étudiant leurs secrets et leur sagesse. En effet, c'est avec la méditation continue et approfondie des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala et de leur signification qu'on arrive à s'imprégner de sa bénédiction et de son bien. Cela prouve l'incitation à méditer les versets du Coran, qui est une des meilleures œuvres. En outre, la récitation suivie de la méditation est meilleure et bien meilleure que la récitation rapide dépourvue de méditation. Et les hommes intelligents tirent profit et leçon de ce qu'ils méditent du Coran. Ceci prouve que c'est en fonction de son intelligence et de sa raison que l'homme tire utilité et profit du Coran. Puis Allah tabaraka wa ta'ala continue avec l'histoire de Daoud en parlant de Suleyman. Dans le verset 30, dans le sens, nous fîmes don à Daoud, à David, de Salomon, de Suleyman, comme fils. Quel excellent serviteur! Il ne cessait de revenir vers Allah et de se repentir. Mentionne lorsqu'un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course et qu'il dit « J'ai préféré l'amour des biens de ce bas monde au rappel de mon Seigneur au point que le soleil se couche sans que j'aie accompli ma prière. Ramenez-les-moi. » Il se mit alors à trancher leurs jarrets et leur encolure. Par Allah, nous avons éprouvé Suleyman en plaçant un corps sur son trône, puis il se repentit et dit « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don et fais-moi don d'un royaume que nul autre après moi ne pourra posséder. Tu es celui qui accorde tout. Nous lui avons soumis le vent qui, sur son ordre, soufflait modérément là où il voulait, ainsi que des démons bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore enchaînés par deux dans des carcans. Tels sont nos dons, ô Suleyman, distribue-les ou garde-les sans avoir à rendre de compte. Dans l'au-delà, il sera proche de nous et jouira d'un excellent lieu de retour. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il a fait don au prophète Daoud alayhi salatu wassalam, après avoir fait les éloges de Daoud alayhi salatu wassalam et rappelé ce qui lui est arrivé, il lui a fait don d'un fils prophète qui est Suleyman alayhi salatu wassalam, qui est un excellent serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est distingué avec des caractéristiques impliquant les éloges, à savoir qu'il est toujours enclin au repentir. Il revient toujours à Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes les circonstances de sa vie, par le repentir, l'amour d'Allah, son évocation, les invocations et les implorations, de même que les efforts en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque les beaux et élégants chevaux coursiers défilèrent devant lui toute la journée, ils lui firent oublier la prière de l'après-midi et ses évocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce faisant, il dit en regrettant son geste, en revenant vers Allah et en montrant son amour pour lui plus que pour toute autre chose, ainsi l'attachement au bien de ce monde, c'est-à-dire que j'ai préféré les biens de ce monde, en particulier les chevaux coursiers, m'a fait oublier d'invoquer mon Seigneur. Et le soleil s'est déjà couché sans que j'aie accompli ma prière. Ramenez-les-moi. Ils les lui ramenèrent et il leur fit trancher les jarrets et les encolures. Il coupa avec son épée les jarrets de ses chevaux et leurs encolures. Nous avons soumis Suleyman à une épreuve, c'est-à-dire nous lui avons fait subir une épreuve et un examen en lui faisant enlever son royaume en raison d'une incapacité découlant d'une cause naturelle. En déposant un corps, un spectre sur son trône, Cheikh Sa'didi, c'est-à-dire un démon qu'Allah a décidé de mettre sur le trône de son royaume pour y régner le temps de son épreuve. Mais il se repentit par la suite, c'est-à-dire que Suleyman revint vers Allah subhanahu wa ta'ala et fit acte de repentir en disant, dans le sens, Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Tu es le dispensateur suprême. Allah exauça son invocation et lui pardonna. Il lui restitua son royaume et le rendit encore plus grand et plus puissant, au point où personne après lui n'en eut de pareil. Il s'agit de la soumission des démons à son pouvoir, qui lui bâtissait tout ce qu'il voulait, qui plongeait pour lui dans la mer en y retirant les perles et les joyaux. Celui parmi eux qui lui désobéissait était enchaîné. Nous lui avons dit, tels sont nos dons, fais-en ce que bon te semble. Distribue-les à qui tu veux ou garde-les sans avoir à rendre de compte, car il sait que Suleyman alayhi salatu wassalam ne le fera qu'en toute justice. Et ne pense pas que ces dons accordés à Suleyman se limite seulement à ce bas monde, loin s'en faut, puisqu'il bénéficiera dans l'au-delà de grands bienfaits. C'est pour cela qu'Allah tabaraka ta'ala a dit dans le sens, Suleyman occupe une place de choix auprès de nous et nous lui avons assuré un beau lieu de séjour. C'est-à-dire, qu'il est parmi les rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont honorés par diverses formes de faveurs divines. Dans ce passage de Surat Sad, Allah tabaraka wa ta'ala a raconté le récit de Daoud et de Suleyman alayhima as-salatu was-salam ou alayhima as-salam. Et parmi les avantages que l'on peut tirer de ce récit qui a été raconté, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a raconté à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les récits de ceux qui l'ont précédé afin d'affermir son cœur et de rendre sereine son âme en lui parlant de leur dévotion, de leur patience et de leur repentir, ce qui est de nature à l'inciter à rivaliser avec eux dans les bonnes œuvres et à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala comme ils se sont rapprochés de lui et à faire preuve de patience devant les torts de son peuple. C'est pour cela qu'après avoir mentionné les torts que le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui faisait subir et ses propos désobligeants à son égard, il lui recommanda de patienter et de se rappeler son serviteur Daoud en s'inspirant de son exemple. Parmi les avantages de cette histoire, il y a le fait qu'Allah aime la vigueur et la force dans son adoration, c'est-à-dire la force du cœur et du corps, car il émane de cette force comme effet de l'adoration et excellence, ce qui n'émane pas de l'indolence et de la faiblesse. En outre, l'homme doit rechercher les causes et les moyens d'acquérir cette force et ne pas succomber à la paresse et à la négligence qui affaiblissent l'âme et la rendent incapable d'assumer son rôle. Il y a aussi le fait que le retour à Allah en toutes circonstances fait partie des vertus des prophètes d'Allah et de l'élite de ses créatures, comme Allah a fait l'éloge de Daoud et de Suleyman alayhim as-salam dans ce contexte. Par conséquent, leur exemple doit être imité par les croyants et leur guidance doit servir de ligne de conduite aux aspirants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces prophètes sont ceux qu'Allah a guidés. Prends donc exemple sur leur guidance. Il y a aussi ce qu'Allah a accordé à son prophète Daoud alayhi salatu wassalam comme belle et mélodieuse voix, au point où les montagnes inertes et les oiseaux lui répondaient en écho lorsqu'il louait Allah avant le lever du soleil et avant son coucher. Entre autres avantages découlant de ce récit est que le plus grand bienfait qui puisse être donné par Allah à un serviteur est la science utile, ainsi que la façon de juger et de trancher les litiges entre les gens, comme cela fut accordé à Daoud alayhi salatu wassalam. Il y a aussi l'attention accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes et ses élus. Lorsqu'un faux pas est commis par l'un d'entre eux, en les éprouvant par ce qui est susceptible de les débarrasser de la faute commise, afin de se retrouver encore plus parfait que dans leur situation précédente, comme cela est arrivé à Daoud et Suleyman alayhima as-salam. Il y a dans ce récit le fait que les prophètes d'Allah alayhim salatu wassalam sont infaillibles dans ce qu'ils transmettent de la part d'Allah, car le message divin ne peut être transmis que par des gens infaillibles et à l'abri de toute erreur pouvant remettre en cause cette transmission. Certes, il peut provenir de quelques petites erreurs et quelques faux pas qu'implique la nature humaine. Mais Allah les protège toujours de sa compassion et les couvre de sa miséricorde. Il y a également le fait que Daoud alayhi salatu wassalam passait le plus clair de son temps dans son oratoire, astreint à la dévotion et à l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les deux plaideurs se sont introduits chez lui dans son oratoire, car lorsqu'il était seul dans cet oratoire, personne ne venait le déranger. En effet, il ne consacrait pas tout son temps aux gens, en dépit des nombreuses requêtes qu'il recevait de ses administrés car il consacrait une partie de son temps pour s'isoler avec son Seigneur et s'adonner à son adoration, pour apprendre à se dévouer à lui dans toutes les circonstances de sa vie. Il y a dans ce récit le fait qu'il importe d'utiliser les bonnes convenances dans les visites à rendre aux dirigeants et autres, car lorsque les deux plaideurs entrèrent chez Daoud de façon inhabituelle et en évitant de le faire par la porte réservée à cet effet, il eut peur d'eux et pensa que cela était inconvenant. Il y a également le fait que le dirigeant ou le juge ne doit pas s'empêcher de juger avec justice malgré l'inconvenance des plaideurs et leur comportement inadéquat. Parmi les avantages et les desseins découlant de ce récit, on y trouve la perfection de la compassion de Daoud alayhi salat wa salam, qui ne s'est pas offusqué de l'intrusion des deux plaideurs chez lui sans sa permission, alors qu'il était roi et ne les a pas blâmés pour cela. Il y a aussi la permission pour la victime d'une injustice de dire à celui qui l'a lésé d'un droit « Tu m'as fait du tort » ou « Tu es un injuste » et autre expression en vertu de ce verset où Allah Ta'ala dit dans le sens que l'un des deux plaideurs a dit: nous sommes deux plaideurs, l'un de nous a agi avec injustice envers l'autre. Il y a aussi le fait que celui qui est exhorté et conseillé, même s'il s'agit d'un homme important et à la science considérable, ne doit pas s'offusquer et se courroucer lorsqu'il est conseillé ou exhorté par quelqu'un. Bien au contraire, il doit accepter cela de lui et l'en féliciter. C'est ainsi que lorsque les deux plaideurs donnèrent un conseil à Daoud, il ne s'en est pas offusqué et ne s'est pas courroucé, et cela ne l'a pas empêché de juger avec justice et équité. Il y a également le fait que la fréquentation des proches et des amis et les transactions financières entre eux sont source de différends entre eux et de torts des uns envers les autres, que seule la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala peut empêcher cela. De même que la patience, la foi et les bonnes œuvres. Certes, cela est très rare parmi les gens. Il y a aussi dans ce récit le fait que la demande de pardon et l'adoration, surtout la prière, sont de nature à faire expier les péchés. Car Allah a fait du pardon de la faute de Daoud alayhi salat wa salam la conséquence de sa demande de pardon et sa prosternation. Il y a également l'honneur qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs Daoud et Suleyman, David et Salomon, en les rapprochant de lui et en leur accordant une rétribution considérable. On ne doit pas penser en effet que ce qui leur est arrivé diminue de leur degré aux yeux d'Allah. Cela fait partie de la perfection de la compassion d'Allah pour ses serviteurs dévoués, qui lorsqu'il leur pardonne et leur enlève les traces de leurs péchés, enlève aussi d'une façon définitive toutes les conséquences pouvant découler de tels péchés. De telle façon qu'il n'y ait plus dans les cœurs des hommes le moindre doute quant à leur degré éminent auprès d'Allah. Aussi, Allah enlève toute trace pouvant donner lieu à de tels doutes. Car rien n'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux et le pardonneur. Il y a aussi dans ce récit le fait que le jugement entre les gens dans les litiges et les différends est une tâche religieuse assumée par les messagers d'Allah et l'élite de ses créatures, de même que la responsabilité de celui qui l'assume est de juger avec justice en évitant de suivre ses passions. En effet, le jugement avec justice implique la connaissance des choses légales et juridiques, c'est-à-dire de la science religieuse, de même que la connaissance de la question traitée et la manière de la faire entrer dans le jugement légal. Par conséquent, celui qui ignore ces deux choses-là ne peut convenir à la tâche de juge et il ne lui est pas permis de s'adonner à cela. Malheureusement, beaucoup de gens reviennent vers des ignorants pour se faire juger. Il y a également le fait que le dirigeant doit éviter de suivre ses passions, car les âmes en sont toutes imprégnées. Bien plus, il doit combattre ses passions pour faire en sorte que la vérité soit toujours son but. En outre, lors de ses jugements, il doit mettre de côté tout amour ou animosité pour l'un des plaignants et plaideurs. Il y a également dans ce récit le fait que Suleyman alayhissalam est parmi les meilleurs dons qui furent accordés à Daoud et parmi les plus belles faveurs faites par Allah à un de ses serviteurs est de lui donner un fils vertueux à plus forte raison lorsqu'il possède la science, auquel cas il devient une lumière sur une lumière. Il y a aussi les éloges d'Allah à l'adresse de Suleyman dans sa parole « Et ce fils fut un excellent serviteur d'Allah, toujours enclin au repentir » dans le sens de sa parole. Il y a aussi dans ce récit l'abondance des bienfaits d'Allah et sa bienfaisance à l'égard de ses serviteurs en leur faisant don de belles vertus et de bonnes œuvres puis en faisant leur éloge. Lui qui est le généreux dispensateur, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces avantages, il y a aussi la préférence par Suleyman de l'amour d'Allah sur l'amour de toute autre chose. Il y a également le fait que tout ce qui occupe l'esprit de l'homme vis-à-vis d'Allah est blâmé et flétri. Et l'homme doit s'en débarrasser pour rechercher ce qui est plus utile pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la célèbre règle qui dit « Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui donne en contrepartie ce qui est meilleur encore. » C'est ainsi que Suleyman alayhissalam a coupé les jarrets des coursiers qui sont très aimés des gens pour montrer sa préférence pour l'amour d'Allah. En contrepartie, Allah lui a compensé ce qui est meilleur encore en lui donnant le pouvoir de soumettre les vents qui vont là où il le désire, un mois pour l'aller et un mois pour le retour, de même qu'il lui a soumis les démons qui ont le pouvoir de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a aussi le fait que la soumission des démons ne pourra plus être accordée à quiconque après Suleyman alayhissalat wassalam. Et ceci est une preuve contre les gens qui disent qu'il est permis de prendre aide des démons musulmans pour faire ruqya ou pour faire telle ou telle chose. Ceci était spécifique au prophète Suleyman alayhissalam, de les attacher, de les mettre à son service. D'ailleurs, il a été rapporté qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba avaient enchaîné un démon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de le libérer et a dit « Ceci est spécifique à mon frère Suleyman ». Il y a également dans ce récit le fait que Suleyman alayhissalam était un roi prophète qui faisait ce qu'il voulait mais qui ne voulait que la justice. A contrario, le serviteur prophète a une volonté qui est assujettie à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait ou ne fait pas que selon un ordre divin, comme c'est le cas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet état, il va de soi, est plus parfait que le premier. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.